Donc Emmanuel Lokès, auteur du Voyage en misarchie. La misarchie, vaste domaine, c'est donc la détestation du pouvoir. Et ce livre cherche à le mettre en pratique. C'est une forme d'utopie qui n'en est pas une dans le sens des utopies habituelles qui sont des mondes fermés. Et celle-ci a donc tout à fait, je dirais, l'avantage de proposer un monde ouvert, évolutif, et donc basé sur la détestation du pouvoir, d'une manière tout de même pragmatiste, je dirais, susceptible d'évoluer à tout moment au gré des acteurs. Est-ce bien ça?
C'est la forme bien celle d'une utopie. C'est-à-dire qu'on a la forme habituelle, un voyage, un accident, la rencontre d'un peuple étrange. Mais il ne s'agit pas pour moi d'essayer de décrire un monde idéal. D'ailleurs, la tentative de décrire un monde idéal est une chose extrêmement inquiétante à mes yeux. C'est même une perspective totalitaire. En fait, un monde idéal, c'est un monde uniformisé, très inquiétant, donc, qui ne me fait pas plaisir. Il s'agit d'un monde imparfait, mais qui correspond assez précisément à tout ce que je suis capable d'imaginer pour aller de manière crédible, concrète, immédiate, vers une société meilleure. C'est-à-dire que j'ai essayé d'imaginer un système qui pourrait être adopté aujourd'hui. Avec un être humain parfaitement inchangé, donc un être humain qui a été éduqué dans un certain univers qui est notre univers actuel, hein, avec toutes ses imperfections, avec tous les défauts qui existent dans les êtres humains tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, avec un univers ouvert aussi, c'est-à-dire qu'il serait, ce serait pas le monde entier qui basculerait d'un seul jour en misarchie, mais un pays parmi beaucoup d'autres, donc avec des frontières ouvertes, des problèmes de concurrence, des difficultés de ce type-là. Et tout ça fait un univers qui est assez loin de toute forme de perfection. Les êtres humains qui sont là-bas ont des opinions très diverses, ce qui me plaît beaucoup d'ailleurs, je n'aime pas les univers uniformisés, mais ils ont des opinions très diverses et ils sont arrivés à mettre en place toute une série de compromis. Disons que dans mon esprit, il s'agit d'un au-delà de la démocratie, améliorable très certainement. D'ailleurs, si on devait réfléchir collectivement à une amélioration, surtout que d'autres idées pourraient venir, et je me dirais, ah zut, j'ai pas pensé à ça. D'ailleurs, j'ai déjà une idée qui, dans les discussions que j'ai eues à propos du livre, qui m'a été donnée et qui me semble excellente. Et si je pouvais faire une mise à jour du bouquin, je le ferais. Il ne s'agit pas de quelque chose d'achevé, mais aucune société ne peut être achevée. Il s'agit de l'achèvement de ma réflexion. C'est-à-dire que je suis arrivé à ce moment-là à ce niveau de réflexion sur un univers possible.
D'accord. Mais puisque d'autres idées sont venues depuis, justement, j'aimerais savoir l'écho, puisque maintenant ce livre date de juin dernier, je crois, quel écho ça a eu dans un contexte où tout de même on plus conservateur globalement, je dirais.
Tout est relatif. On ne peut pas dire que le système préconisé dans la misarchie depuis l'apparition de ce livre est gagné intellectuellement et fait progresser la société dans son sens, puisque, comme tu l'as dit, c'est tout le contraire. On est vraiment du fascisme, de l'autoritarisme sous toutes ses formes, de la xénophobie. Donc, si c'était l'objectif du livre que de pousser la société dans le bon sens, on ne peut pas dire que j'y sois arrivé. En même temps, c'est absurde. Aucun être, aucun individu n'a le pouvoir de modifier quoi que ce soit. Il a quand même eu, ce livre, un écho qui est plutôt plus important que celui que j'escomptais au départ. Il s'agit quand même d'une réflexion politique globale. Après, quel est l'avenir d'une réflexion politique globale? C'est quelque chose de très incertain quand on écrit. Quand on écrit, on n'est même pas certain d'avoir un éditeur et encore moins d'avoir des lecteurs. Et donc là, en l'occurrence, il y a eu un éditeur, des lecteurs, des débats. des débats dans le monde francophone, c'est-à-dire que là, j'ai pu en discuter en France, en Suisse, en Belgique et au Québec, assez logiquement. Mais ça m'a donné l'occasion même de rencontrer différents mouvements, différentes luttes pour des alternatives. Et ça continue. Finalement, je dirais que c'est un succès qui va un peu au-delà de mes espérances au départ, même si, évidemment, ça reste extrêmement modeste dans un monde qui, par ailleurs, est épouvantablement mal. Mais c'est pas parce que les choses vont mal qu'on n'a pas le droit de lutter pour un monde meilleur.
Bien sûr. Pour un monde meilleur, donc un peu au centre de ce monde meilleur, il y a le système de la propriété. Retrouver des opinions anciennes sur cette question-là. Proudhon annonçait dans sa théorie de la propriété que c'était la propriété qui était le pivot de la société. Alors maintenant, quelle modalité pour la propriété de manière à avoir un monde un peu plus égalitaire?
Alors, Proudhon est... Évidemment, la propriété, c'est le vol, etc. Ouais. Mais juste après, la possession, c'est très bien. En changeant le mot, on a un autre, disons qu'on a un autre droit réel sur les choses qui est parfaitement admis et reconnu comme doté de valeur. Ce point de départ est assez proche du mien. Alors, j'ai gardé le mot propriété. Mais j'ai soigneusement distingué deux sortes de propriétés. Dans certains cas, la propriété est, à mon avis, un moyen de défense de l'autonomie des personnes. Et dans ce cas-là, la propriété doit être non seulement préservée, mais maintenue et même renforcée.
Ça, c'est proudhonien.
Sauf qu'il dit possession.
Il dit possession.
Mais c'est la même chose.
Oui.
C'est la même chose. Donc ça, c'est tout à fait
proudhonien. La liberté contre l'État.
Voilà, exactement. Donc cette propriété-là, c'est tout à fait proudhonien. Il n'y a pas d'originalité là-dessus. D'ailleurs, c'est une vieille idée. Et puis dans d'autres cas, alors là, c'est ce que Proudhon appelle la propriété. Elle devient moyen de domination et il convient de l'éradiquer autant que possible. Alors, une fois qu'on a ces principes-là, qui sont finalement les mêmes que tout le monde, qui sont assez logique, enfin qui me convainc en tout cas personnellement, la question c'est comment faire. Et c'est là que le côté pragmatiste intervient. Comment faire? Bon, mais il faut faire attention. Et alors comme c'est mon côté juriste, débarque à ce moment-là tout un arsenal de règles qui visent à prohiber la propriété dominante et à renforcer la propriété qui génère l'indépendance des personnes, celle-là. Donc la propriété du travailleur sur ses moyens de production, la propriété de celui qui habite dans un appartement sur son appartement, la propriété, moi je suis propriétaire de mon vélo, et que personne ne vienne toucher à mon vélo s'il vous plaît. Donc ce genre de propriété-là. Alors comment faire? Ça dépend du type de bien. Et donc en fonction des types de biens, on ne peut pas avoir exactement les mêmes solutions. La difficulté la plus grande, très clairement, c'est lorsqu'on abolit le capitalisme. C'est-à-dire lorsqu'on supprime le pouvoir du propriétaire de l'entreprise sur les salariés en tant que propriétaire de l'entreprise. Tout en maintenant la possibilité de construire une entreprise et de financer une entreprise. Donc je suis de ceux qui pensent qu'une société dans laquelle on ne peut pas monter sa boîte est une société sclérosée, c'est très mauvais, il faut que les gens puissent monter leur boîte. Si demain j'ai envie de m'installer comme plombier et que je n'ai pas le droit de me monter comme plombier parce qu'il faut, je ne sais pas quelle collectivisation du monde, c'est une société qui est liberticide, qui ne peut pas du tout. Donc je veux pouvoir construire ma boîte comme plombier et ça va coûter de l'argent, il va falloir que j'achète du matériel, il va falloir que... j'achète un local, peut-être, il va falloir aider. Donc je vais utiliser du capital. Et ce capital-là, c'est une espèce de droit de propriété que je vais avoir. Donc je suis le seul à travailler, tout est très simple. Je suis propriétaire de mes moyens de production, tout va bien. Le problème, c'est lorsque je vais grossir, supposons, que j'ai besoin d'un travailleur de plus dans mon entreprise. Donc je vais embaucher quelqu'un. Et à cette seconde-là, il y a deux possibilités. Soit on partage plus par moitié. Mais s'il n'a pas de capital et qu'il n'a pas les moyens d'acheter la moitié, ça va être très difficile. Et souvent, ça va être le cas. Soit je lui fais cadeau de la moitié, mais alors j'embaucherai jamais personne, parce que ça, c'est avec tout ce que j'ai, parce que j'ai peut-être vendu ma maison, moi, et puis j'ai peut-être bossé pendant 3 ans sans me payer pour monter ma boîte, et puis, donc là, si c'est pour tout lui filer comme ça, alors qu'il a juste un mois d'ancienneté, ça va pas être possible. Alors, et si je fais comme la société actuelle, eh bien, je reste propriétaire d'entreprise, et il devient salarié à vie, et il sera soumis. Donc, on a l'impression qu'on est face à une complexité très grande, elle l'est, hein, c'est vraiment très compliqué, et la solution que je propose est une solution d'évolution dans le temps. Pour mon entreprise de plomberie, en gros, si j'embauche un travailleur, si j'embauche un salarié, il me semble injuste qu'on partage tout par moitié. J'ai peut-être mis des années à construire cette clientèle, j'ai vendu ceci et cela, j'ai mis des biens. Et donc, que j'ai une part préférentielle sur ce fruit de mon travail et de mon capital, me semble parfaitement normal. Donc, une part préférentielle au départ. En revanche, on reprend les deux mêmes et on se retrouve 20 ans plus tard. S'il y en a toujours un qui est le patron, et l'autre qui est le salarié, alors c'est que la société ne fonctionne pas. Puisque en réalité, 20 ans plus tard, la boîte, c'est la boîte des deux, pour de vrai. Puisque l'autre, il a travaillé 20 ans dans une entreprise, et c'est son entreprise autant que celle de celui qui était là au départ. Donc il convient de faire en sorte qu'à la fin, ce soit autogéré. Donc comment faire? Eh bien, il faut qu'on ait un rachat obligatoire, en quelque sorte, départ, par les travailleurs. Ce qui fait que toutes les entreprises tendent vers l'autogestion. Dans un délai qui est variable en fonction du nombre de travailleurs. Et donc, plus il y a de travailleurs, plus on aura un partage du travail nécessaire, rapide, moins il y en a, et plus c'est une entreprise individuelle, plus ça peut durer un peu longtemps. Donc, il me semble important que tout aille vers l'autogestion, mais que tout ne soit pas forcément instantanément autogéré, me semble aussi correspondre à l'historique de la création d'une activité, et y compris à son historique capitalistique en quelque sorte. En revanche, une chose qu'il est possible d'abolir immédiatement, c'est le pouvoir de quelqu'un qui serait un pouvoir simplement en tant que détenteur de capital. C'est le cas aujourd'hui, en réalité, les actionnaires sont détenteurs du pouvoir en qualité d'actionnaire, même s'ils ne travaillent pas. Dans l'exemple que j'ai donné, on a un travailleur qui est aussi apporteur de capital. Alors lui, il a droit à une part préférentielle, puisqu'il est créateur et travailleur. En revanche, quelqu'un qui ne serait pas travailleur et qui serait juste apporteur de capital, bon, moi j'appelle ça un prêteur, une banque, les banquiers ne dirigent pas les entreprises. Est-ce qu'ils touchent un intérêt? Est-ce que c'est une banque qui serait plus autogérée, qui ne toucherait pas d'intérêt? Là, c'est une autre question, c'est la question du système bancaire, qui est une question très importante, posée par Proudhon aussi, puisqu'il a même construit des coopératives de prêt.
C'est ça.
Donc ça c'est une question très importante, mais en tout cas, il convient que ce soit le travail qui loue le capital et pas le capital qui loue le travail, pour reprendre une vieille idée. Et ça, elle est très, comment dire, très réaliste, y compris dans une idée immédiate des choses, à partir du moment où on a un système bancaire qui ne ressemble pas au nôtre et qui a été organisé sur des principes un peu différents, ce qui est possible aussi. Alors ça, c'est pour la propriété des entreprises. Donc, j'ai commencé par le plus dur. Ouais. Après, il y a toutes sortes d'autres propriétés. Il y a par exemple la propriété des appartements. L'idée de la location est supprimée. Mais ça, c'est un peu technique. Mais c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, on peut avoir le propriétaire d'un appartement qui loue son appartement. C'est assez malsain en réalité, puisque l'utilisateur du bien n'est pas le propriétaire du bien. Il faut autant que possible interdire ce genre de choses. Il convient que l'utilisateur du bien soit propriétaire du bien. Donc, pour ce faire, il convient d'abolir la location.
Dans le vocabulaire d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un investisseur.
L'investisseur est la figure...
Tout comme l'actionnaire. Oui. Comme...
Donc, typiquement, l'investisseur, ou un autre terme qui est d'aujourd'hui, c'est le dividende. Ces activités-là... sont, à partir du moment où elles sont liées à une relation de pouvoir, peuvent être supprimées sans grande difficulté. Donc, on peut avoir le travailleur qui investit dans son travail, ça c'est pas un problème. Quant à la ressource capitalistique qui va permettre de fonder l'entreprise, à partir du moment où on a un système bancaire suffisamment bien conçu, c'est le prêt qui va régler ça. Donc on aura la mise de fonds par le ou les travailleurs, et puis on aura de l'autre côté des emprunts bancaires. Ça suffit normalement. Aujourd'hui, on a une troisième figure qui est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui met de l'argent et qui, au nom de cet argent qu'il a mis, exerce le pouvoir sur une activité dans laquelle il ne travaille pas. Ça, c'est assez malsain, puis c'est même très mauvais économiquement, puisque vous avez des personnes qui dirigent sans travailler. Et quelqu'un qui dirige sans travailler est quelqu'un qui ne connaît pas le travail, qui n'est pas dans l'entreprise, qui ne connaît pas le fonctionnement, et il va très mal diriger. C'est quelque chose qui est tout à fait banalisé. Hein. Actuellement, la finance, donc les détenteurs des parts sociales, des grandes sociétés commerciales, n'ont aucune connaissance presque du fonctionnement ou même de l'activité de l'entreprise. Et c'est eux qui prennent des décisions en fonction de grands bilans chiffrés et des décisions qui sont effectivement catastrophiques hein, pour la vie économique. Donc cette vision d'un pouvoir lié à l'investissement ou à la finance, c'est aussi accorder un pouvoir à des personnes qui sont incompétentes.
D'accord. J'entends bien que ce soit simple en théorie. Maintenant, en pratique, les investisseurs, les rentiers, les actionnaires, etc., ce sont eux qui vont, qui, je dirais, résisteront à ce, à l'instauration d'un tel système.
Voilà, c'est une autre question que celle de la praticabilité d'un système. C'est-à-dire que je dis c'est facile, en ce sens que je pense que ce serait économiquement plus efficace, économiquement viable, et que ce serait un système qui marche. Voilà. Après, il y a une autre question, c'est comment est-ce qu'on passe du monde actuel à un monde comme celui qui est préconisé. Alors, la première chose, c'est de montrer la possibilité de ce monde et la désirabilité de ce monde. Si on n'a même pas cette possibilité, cette désirabilité, alors on ne risque pas d'y aller. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien après, il faut évidemment, je suis respectueux de la volonté des personnes, on ne va pas imposer ce système-là contre la volonté des personnes. Si tout le monde adore les investisseurs, les dividendes et le capitalisme, eh bien, on va le garder. Hein. On ne peut pas aller contre la volonté des personnes. En revanche, si on avait une majorité de personnes qui étaient contre le capitalisme, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, eh bien, à ce moment-là, on pourrait réfléchir à la possibilité de ce passage-là. Je pense que ce serait très très possible, avec des questions qui sont autres, celle de la résistance, de la puissance, du capital, la question du basculement des forces armées, la question de l'internationalisation, la possible déstabilisation par des puissances capitalistes extérieures. Donc ça, ce sont des questions importantes sur la possibilité, en quelque sorte, de basculer du système actuel un système comme celui-là, et comment est-ce qu'on pourrait le faire effectivement en pratique. Et c'est un peu l'objet du dernier chapitre. Et je suis convaincu qu'il n'y a rien d'insurmontable. Que pour l'instant, ce qui rend la chose insurmontable, c'est que les personnes ne sont même pas favorables à la suppression du capitalisme. Ils ne sont même pas favorables. Bon, mais on peut commencer par leur expliquer que, voilà, on pourrait très bien vivre sans, et bien mieux vivre sans. Et à partir du moment où déjà l'idée peut passer, ça sera déjà ça. Et puis on peut aussi montrer la viabilité, évidemment, d'entreprises dans le capitalisme. En réalité, il y en a déjà beaucoup. Elles sont relativement faibles. hein, par rapport à la production globale. Elles sont pas marginales, puisqu'il y en a quand même plus qu'on... C'est toute la question du secteur, du quatrième secteur, etc. Mais ça reste très minoritaire, en tout cas, hein, dans l'économie actuelle. Un peu, à mon avis, pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé qu'il y avait vraiment deux possibilités, soit l'entreprise capitaliste traditionnelle, avec l'investisseur, détenteur de pouvoir, qui récupère les dividendes, bon, soit une entreprise plus sympa, et qui est une entreprise autogérée. Alors, coopérative, SCOP, mais alors là, autogestion, hein, on rigole plus les gars, c'est l'autogestion, un homme, une voix. Et ce qui se heurte à ce moment-là à la grosse difficulté dont j'ai parlé au début, c'est-à-dire que lorsque vous avez une entreprise, disons, autogérée, on se met à quatre, on fait une entreprise parfaitement autogérée, tout le monde apporte la même somme en capital pour qu'on soit bien sur un pied d'égalité. L'entreprise fonctionne bien, on embauche un cinquième larron, on lui donne une voix, on lui donne une partie de nous. Ouf, c'est déjà difficile. Et donc, en fait, les entreprises qui exigent comme mode de fonctionnement un homme, une voix, sont des entreprises qui, du coup, exigent aussi un partage du capital égalitaire au début, exigent un maintien de cette égalité même sans transfert de capital ensuite, et qui, du coup, ont du mal à devenir des concurrents efficaces par rapport au capitalisme. Alors que mon petit système progressif me semble finalement plus modéré que l'autogestion tout de suite, plus modéré mais plus réaliste, et aussi peut-être plus concurrentiel, puisque c'est aussi, comment dire, une espèce de récompense de la personne qui se lance, qui fait sa boîte, et est-ce qu'elle peut être récompensée de ses efforts? Ça ne me choque pas du tout que les gens soient récompensés de leurs efforts. Et on est dans une espèce d'intermédiaire, on a l'esprit d'entreprise, et on a l'autogestion à la fin. Et ce qui est dangereux dans l'autogestion pure tout de suite, c'est qu'on risque de perdre un peu en esprit d'entreprise. Ce qui est catastrophique, évidemment, dans le capitalisme, c'est que c'est le travail qui est complètement dévalorisé et qu'on n'a plus que la vision financière des choses. Et avec mon petit mélange intermédiaire, je pense qu'on peut arriver à quelque chose de finalement assez efficace, pas tout à fait libérateur, pas tout à fait libérateur, puisque le temps que dans ma petite entreprise, le salarié devient inégalitaire, au début, il ne l'est pas. Et quand il ne l'est pas, ben, il est salarié, quoi. Donc on n'a pas totalement libéré les personnes. On a quand même supprimé le capitalisme, puisqu'on a supprimé le dividende et le pouvoir du capital est qualité. Donc ça suffit pour dire on a supprimé le capitalisme. Est-ce qu'on est arrivé dans une société parfaite? Non, absolument pas. Est-ce que c'était ce que je voulais faire? D'ailleurs, non. Donc c'est pas une société parfaite, mais ça me semble une société qui est immédiatement possible. Je préfère les sociétés immédiatement possibles aux sociétés parfaites, un peu abstraites.
Donc une sorte de libéralisme non capitaliste.
Le mot libéralisme est un mot qui est plein d'ambiguïté.
La liberté d'entreprendre.
Bien sûr. Alors, comment dire? Le libéralisme aujourd'hui est un mot qui est utilisé. Parfois on parle de néolibéralisme comme une espèce d'équivalent d'un capitalisme sauvage, plus ou moins sauvage selon l'État, mais du capitalisme. Alors si on dit le libéralisme sans le capitalisme, il y a une espèce de brutalité des mots. On dit mais non, mais le libéralisme c'est le capitalisme, dans un certain sens. En réalité, dans l'histoire des idées, c'est pas aussi simple que ça. Le libéralisme au sens 18e siècle n'était pas la défense d'un capitalisme qui d'ailleurs existait toujours pas vraiment. C'était quelque chose qui est apparu plutôt après. Et donc, dans les idées, le libéralisme, c'est la liberté et l'égalité des personnes. Alors, le drame de cette pensée-là, c'est que on a cru qu'il suffirait de décréter l'égalité et la liberté des personnes et que ça allait marcher. Puis alors là, on a eu la catastrophe du 19e siècle, On a proclamé l'égalité, on a proclamé la liberté et on a produit le capitalisme dans son aspect le plus effroyable qu'il soit. Et certaines personnes restent attachées au principe du départ, sans correctif, et en fait, ils ne font que défendre le capitalisme le plus brutal. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je suis vraiment anti-libéral en ce sens-là, anti-néolibéral en ce sens-là. En revanche, ces idéaux qui étaient les idéaux du 18e siècle sont exactement les miens. Je suis favorable à la liberté, je suis favorable à l'égalité. Et donc, au sens de la pensée politique un peu rêvée de l'époque, je suis libéral, absolument, totalement libéral. Mais alors, pour faire un libéralisme sans capitalisme, alors, ça suppose évidemment de ne pas en rester au rêve du 18e siècle et de mettre en place de sérieux garde-fous pour empêcher la réapparition de l'exploitation brutale qui a été et qui est encore le capitalisme.
Mais les garde-fous, ils sont juridiques.
Alors oui, moi je suis juriste, j'ai mis du droit partout, très clair.
C'est ça. Il s'agit de fournir des garanties aux individus, en quelque sorte.
Oui, Alors après tout se discute naturellement, mais je ne crois pas à l'apparition d'un ordre spontané plein de liberté et d'égalité. C'était justement ça l'erreur du libéralisme. Le libéralisme a été la pensée selon laquelle on va enlever toutes les règles, laisser faire, laisser passer, et tout naturellement, comme les hommes sont naturellement libres et égaux, eh bien la liberté et l'égalité vont régner. Bon, qu'est-ce qui a régné? Les grandes filatures qui massacraient les enfants décrites par le rapport Villermet, c'est ça qui s'est passé. On a eu d'autres cas d'effondrement des systèmes normatifs, par exemple au Kosovo, quand ça s'est effondré, on a eu une absence de système normatif pendant un certain temps. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été remplacé par une grande guerre des mafias. Je crois que la spontanéité génère plutôt l'enfer que quelque chose d'égal et de libre. Donc pour faire quelque chose d'égal et de libre, c'est quelque chose d'éminemment culturel, d'éminemment décidé, d'éminemment réfléchi. Et donc le droit se révèle un outil, à mon avis, bien meilleur que les autres outils de domination qui peuvent exister, comme les armes, les mafias, les clans, je préfère largement le droit. Et donc du droit, oui. Du droit pour permettre de rendre plus effectives les idées de liberté et d'égalité que cette spontanéité qui les détruit en réalité. Donc oui, je suis plutôt de ceux qui croient que le droit est un bon outil pour améliorer la société. C'est pas une idée nouvelle non plus. L'idée de démocratie, c'est appuyer sur le droit. Et si on veut dépasser la démocratie pour faire mieux que son... Si on veut dépasser la démocratie, ça ne sera pas en abandonnant cet outil-là qui est un outil antidespotique au départ. Voilà, l'état de droit. Et donc si on veut être encore plus antidespotique, ça ne sera pas avec moins de droits, mais plus de droits.
Une constitution.
Alors, une constitution, ça serait... Ça se réfère à un univers qui, justement, ne me semble pas indispensable. Puisque une constitution, c'est l'organisation d'une norme fondamentale qui va permettre de régner sur un État souverain. Alors, tous ces concepts me semblent inutiles. Le concept d'État et le concept de souveraineté qui sont des espèces de mythe, hein, la mythologie de la souveraineté, la mythologie de l'État, c'est un peu la même chose. Et quand je parle de droit, quand je parle de droit, je ne pense pas à l'État, je pense qu'on peut tout à fait dépasser l'idée d'État, qu'on peut dépasser l'organisation étatique. Ce qu'on ne peut pas oblitérer, c'est le droit, mais le droit n'est pas l'État, n'a jamais été l'État. L'État a voulu s'approprier la matière juridique et aujourd'hui il prétend être la source suprême du droit, mais déjà aujourd'hui c'est complètement faux. En réalité, il y a beaucoup de règles de droit qui s'appliquent, ne serait-ce qu'à travers les contrats. Les gens font leurs règles, ils en font tout le temps, et il se passe bien de l'État pour les faire. Et donc les systèmes juridiques ne sont pas des systèmes aussi étatiques qu'on le prétend. Et si on supprime l'État, on peut conserver non seulement le droit, mais on peut améliorer le droit en se débarrassant de cette mythologie étatique.
Dans la misarchie, il y a, j'ai oublié le nom, mais il y a une base commune à tous en termes de droit.
Alors, oui, alors, mais je ne l'appellerai pas constitution.
Oui, ah, voilà.
Je ne l'appellerai pas constitution parce que ça se réfère trop à normes suprêmes et à État, qui sont des concepts que j'aimerais bien éviter. Parce qu'à mon avis, ils sont dangereux, et mystiques et mythologiques. Donc ils sont dangereux et trompeurs. En revanche, je pense que si on veut faire une société, il est difficile d'éviter certaines règles communes et impératives. Voilà. Alors, le moins possible. on préfère les normes qui seraient décidées directement par des plus petits groupes, qui soient plus autonomes, qui soient moins impératives. Quand je parle de normes communes impératives, évidemment, c'est quelque chose qui, à juste titre, fait peur. C'est quelque chose de dangereux. C'est un moyen de pouvoir, un moyen de hiérarchie qui est très fort. Néanmoins, je pense qu'il est tout à fait illusoire d'imaginer un univers sans ces règles communes impératives. L'exemple le plus simple qui est sur votre site, d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de dire qu'on va rouler à droite. Et pas tantôt à droite ou à gauche en fonction de ce qu'on voudra bien faire, parce qu'on va avoir beaucoup d'accidents. Voilà. Donc, alors on va déjà décider qu'on doit rouler à droite. On va peut-être prohiber le meurtre. On va faire de. En réalité, on a besoin d'un petit corpus commun sans lequel ça va être difficile. Ce n'est pas forcément quelque chose d'énorme. Je pense qu'on peut accepter une très grande diversité dans les modes de vie, dans les modes normatifs qui peuvent exister au sein d'une société sans qu'il y ait de problème, c'est-à-dire de conflits, de violences. Les gens peuvent très bien... L'autre grand principe de la misarchie, d'ailleurs une des règles fondamentales à adopter comme règle fondamentale, c'est foutez la paix aux gens, quoi. C'est peut-être la première règle fondamentale à imposer, qu'on nous foute la paix.
Le droit à l'autonomie.
Voilà, que les gens puissent vivre un peu selon leur goût et selon leur façon de concevoir la vie. Et s'ils veulent tout mettre en commun, qu'ils mettent tout en commun. Et s'ils veulent être hyper individualistes, qu'ils soient hyper individualistes. Et s'ils veulent mettre un voile, qu'ils mettent un voile. Et s'ils ne veulent pas en mettre, qu'ils n'en mettent pas. Et qu'on nous foute la paix. C'est une norme. Peut être une norme impérative et qui peut amener même à des actions coercitives. Si par exemple tel ou tel groupe vient interdire à un de ses membres tel ou tel type de comportement et que ce membre veut essayer d'en sortir, il sera toujours aidé, il aura été aidé par la collectivité, puisque au nom de la liberté de la personne, la règle commune fait qu'il aura le droit par exemple de quitter le groupe qui essaie de lui imposer telle ou telle chose. Donc ça relève d'une norme impérative. Donc il y a toute une série de normes impératives qui visent justement à garantir l'autonomie. Donc là je ne rentre pas forcément dans tous les détails, mais par exemple il est possible toujours de faire scissionner des districts. C'est-à-dire si vous êtes dans une circonscription territoriale, vous avez en principe le droit de faire scission à 10, à 100, à 1000, vous faites scission. Mais le droit de faire scission est quelque chose qui doit être garanti par une norme impérative commune. Donc les gens qui sont contre la norme impérative commune au nom de l'autonomie se trompent. C'est pour garantir l'autonomie qu'il faut aussi une norme impérative commune.
Oui. Donc il faut que, bien sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les termes à ce moment-là, et tout le problème est là.
Mais je suis juriste.
Oui.
Demander une règle sans ambiguïté dans les termes, c'est beaucoup demandé, voilà. Encore une fois, la perfection, on va laisser tomber. C'est bien compliqué. On essaiera de faire des règles qui tiennent à peu près la route et qui soient les moins autoritaires possibles. Il fois qu'on se donne cette ligne, après quelles règles est-ce qu'on choisit, c'est un truc à discuter. Mais il me semble nécessaire qu'il y en ait, et qu'elle soit le moins autoritaire possible. Et je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faudrait mieux qu'elle soit le moins ambiguë possible. Oui, mais il ne faut pas se leurrer soi-même. Des ambiguïtés, malheureusement, on n'arrive jamais à les supprimer totalement. La perfection des règles n'existera pas. Il y aura toujours des points qui seront discutables. Et d'ailleurs, on va se bagarrer sur le contenu des règles. Et d'ailleurs, certains seront en faveur de celle-là, et d'autres seront contre. Et d'ailleurs, elles changeront tout le temps. Et tant mieux. C'est bon signe. C'est bon signe.
Si tout... Oui. Aujourd'hui aussi, les règles évoluent tout le temps.
Oui.
Et finalement, leur application dépend de ce qu'en font les acteurs.
Oui, oui, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'amélioration possible. De toute façon, les règles, elles évolueront et elles seront ce qu'en feront les acteurs. Et mais comment faire mieux que ça? Je vois pas comment améliorer.
D'accord.
Ça.
Mais tout dépend des acteurs. Donc, mais dans l'État, il est ce qu'en font ces acteurs et la misarchie aussi. Alors est-ce que l'État ne peut pas renaître dans la misarchie?
Mais bien sûr que si, très facilement. Il suffit que les gens décident de faire un État et ils vont en faire un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des règles, surtout dans un univers misarchiste, autonome, etc., qui viennent empêcher les régressions. Sauf à imaginer qu'il y aurait un groupe de détenteurs de la vérité qui apporterait les grandes lois fondamentales de la misarchie, qui ne sauraient en aucun cas être modifiées par le peuple parce que ce sont des sachants. Tout ça est absolument contraire avec, par rapport à nos idéaux. Donc il n'y a rien à faire. Quand on a comme idéal de maximiser l'autonomie des personnes, eh bien, les garanties sont faibles. Si jamais les personnes évoluent vers des pentes autoritaires, ils font des systèmes autoritaires. On n'impose pas la liberté. Il faut que des gens qui en aient envie. Ça me semble nécessaire. Les moyens d'entrer en misarchie doivent être conformes aux idées de la misarchie, sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un univers où les individus sont plus libres et plus égaux en utilisant des milices armées et hiérarchiques. Parce que si on utilise des milices armées et hiérarchiques, une fois qu'elles ont pris le pouvoir, elles font un monde armé et hiérarchique. On ne crée pas un système avec moins de pouvoir en posant des règles autoritaires. C'est juste une contradiction.
Merci.
Bien, merci à vous.